je suis Mireille Bergeron. La plupart d'entre vous me connaissez. Je suis la femme de Luigi, l'ancien exécutif de l'Église. Donc là, hier, j'ai fait une pratique avec lui, puis il m'a dit de rajouter un petit mot pour me présenter. Fait que, juste pour ceux qui me connaissent moins. Fait que nous, ça fait déjà 4 ans qu'on est ici à l'Église de Longueuil. Avant, on servait à l'Église de l'Est de Montréal, Anjou, Agapé-Pétroville, dans ce coin-là. On était là une dizaine d'années, puis moi, je viens de Sorel, dans le fond. J'étais 20 ans à Sorel, là-bas. Puis, quand on est venu ici, c'était Luigi est comptable, là. C'était pas du tout pour être dans le ministère. Puis, de fil en aiguille, Yannick l'a approché, puis il y a eu un appel, puis on sort maintenant depuis 4 ans. Fait que moi, j'ai toujours fait l'école du dimanche depuis l'âge de 12 ans. J'enseigne dans des groupes d'école du dimanche, là, de jeune âge. Puis à l'église de Montréal, j'enseignais plus au niveau des adolescents. Fait que j'ai toujours donné des cours, mais aux adultes, c'était moins courant. Dans mon métier, je donne certaines formations, là, mais c'est plus médical, là. Fait que c'est moins au niveau de la théologie. J'ai déjà donné une portion de ce cours-là aux adolescentes il y a quelques années. Puis c'est de là un peu que part l'idée du cours. Yannick m'a approché pour pouvoir donner un cours pour les femmes. Donc, on cherchait un peu sur quel chemin on voulait aller. Surtout que, tu sais, j'ai pas une formation théologique là, extensive. Là, j'ai ma propre vie spirituelle. puis un peu mes petites recherches. Mais fait qu'on a décidé d'amalgamer un petit peu le cours que j'avais donné, qui était vraiment un cours très historique. Là, on passait au travers différentes femmes. On regardait leur parcours, on s'inspirait d'eux, puis essayait de voir là, qu'est-ce qu'ils pouvaient nous apporter. Mais on trouvait qu'il manquait quand même une ligne directrice pour pouvoir vraiment approfondir là, de façon plus poussée notre vie spirituelle. Puis c'est de là qu'est venue l'idée de le joindre au livre. Là, je vais souvent vous parler du livre, mais il faut mentionner qu'il n'est pas obligatoire là, d'être acheté. J'ai fait demander à Daniel de l'avoir à la bibliothèque. C'est 20 $. Ça, c'est la version ancienne. Là, la nouvelle version, elle est plus comme ça, là, mais c'est la même chose. C'est juste qu'ils ont changé le dessus. Puis dans le fond, on va passer au travers des disciplines que Mme Hughes exprime. Il y en a 15, on a 11 dimanches ensemble. On va peut-être soit en jumeler, soit en sauter. On verra comment tout se déroule. Si finalement il me manque de dimanches, je vais quand même les développer. Puis je vous enverrai les notes que j'aurai prises pour pouvoir là, de votre côté le faire plus personnellement. Donc, le livre, on passe à travers le survol de chaque chapitre, mais on va vraiment après travailler avec les femmes de la Bible puis des femmes contemporaines pour être capable de voir comment on peut ressortir ça aujourd'hui puis d'être très pratico-pratique, pas juste être dans la théologie de tout ça. Puis je trouvais ça intéressant, c'était un défi personnel de rajouter justement des femmes contemporaines. Comment aujourd'hui, dans l'an 2000, bon, il y en a quelques-unes, c'est dans l'an 80-90, là, il y en a qui sont décédés, mais comment aujourd'hui, pratico-pratique, les femmes sont capables de vivre une vie de discipline dans certaines sphères très précises. OK? Fait que ça va ressembler à ça. Vous verrez le livre si vous voulez le prendre ou pas. C'est vraiment pas obligatoire. On va passer au travers. Là, aujourd'hui, on fait l'introduction puis la première discipline. Fait que on voit un petit peu moins de femmes aujourd'hui, mais c'était pour être capable de vous donner une bonne base. Là, on me dit que je parle souvent très vite. Fait que levez la main, je n'hésite pas à poser des questions, on va voir comment ça va. Puis on va voir le beat, comment ça, je ne savais pas, on allait être combien. Fait que on va voir. Il y a certaines dimanches qui vont avoir plus de partage que d'autres, dépendant du contenu. Si on trouve qu'au fur et à mesure, c'est trop long, vous voulez plus de partage, on peut se réajuster. Puis si, pour ceux qui ont le livre ou pour ceux qui veulent prendre un peu d'avance puis qui voient certaines disciplines, si vous avez des idées de nouvelles femmes, moi, j'ai fait une recherche sommaire pour mon plan de cours qui est... C'est vraiment un petit indicatif là, que vous voyez. Là, il est écrit très petit, là, je le conçois. Là, c'était juste pour vous donner les disciplines en général. Mais si vous, dans votre cheminement, il y en a une que vous dites, « Ah, mais semble ça fitterait mieux avec telle personne. Vous avez des idées avant ou après coup. » J'aimerais vraiment que vous veniez m'en parler. On peut l'ajuster, on peut bonifier. Puis si le cours se redonne, bon, on pourra aller dans certaines sphères plus précises. Fait que si aujourd'hui, vous trouvez que... Il y aurait une autre femme ou vous connaissez quelqu'un d'autre qui aurait fêté. J'aimerais ça le savoir pour pouvoir bonifier tout ça, puis on pourra s'en reparler dans les prochaines semaines. Puis voilà. Fait qu'aujourd'hui, on fait l'introduction de la discipline de l'Évangile. Puis ça, c'est les 15 disciplines là, qui vont être abordées là, au travers des dimanches. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Ça va? Fait qu'on va partir ça. Bon. Fait que là, quand on met le mot discipline, moi, je suis quelqu'un de très, très ordonné. Je suis très rigoureuse dans mon quotidien. Fait que moi, voir discipline, j'ai pas nécessairement peur, là. Ça fait quelque chose que je me culpabilise tous les jours d'essayer d'être dans mes, à mes affaires. Mais souvent, là, c'est un mot qui devient très légaliste, qui devient les choses à faire. Puis dans la vie chrétienne, hein, je sais pas pour vous, mais les gens, ils nous rencontrent dans la rue. Puis c'est quoi que vous avez pas le droit de faire déjà? Hein? Pas fumer, on couche pas avant le mariage. Il y a vraiment toujours comme une sorte de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas dans la religion à laquelle on appartient. Fait que c'est comme si le mot discipline rend pas est pas positif là, dans ce qu'on devrait voir. Et pourtant, dans notre vie quotidienne, on fait toujours ça. Hein? On veut préparer un jardin, on prépare nos choses avant, on trouve les meilleures dates, on attend la meilleure journée, on prépare nos instruments, on prépare notre. On est un an d'avance, on fait nos choses, on veut faire un marathon. Hein? Moi, hier, avec mon garçon, on a couru 5 kilomètres. On s'est préparé. On a fait des petites courses de 1 kilomètre avant d'en faire 5. C'est logique de penser que pour atteindre un objectif, il faut se préparer, il faut faire des choses. Mais on dirait que dans la vie chrétienne, on est comme, oh, c'est plus dur, c'est plus lourd. Il y a des choses qui sont plus dures. Puis, il y en a qui ont des personnalités que ça va naturellement dans certaines disciplines. Il y en a, là, l'évangélisation, là, c'est tout seul. Ça sort tout seul. Le flambeau, il est là. Quelqu'un nous parle, puis on veut le sauver. Il y en a d'autres, ça nous gêne. On a l'impression qu'on ne connaît plus notre salut, que nos mots nous perturbent. Fait qu'il y a des disciplines que pour vous, ça va être beaucoup plus léger à apprivoiser. Puis il y en a d'autres qui ça va être vraiment plus lourd. Même, vous dites, ça, c'est pas mon don, là. Ça m'appartient pas du tout, là. Et pourtant, on est tous appelés à grandir dans toutes les sphères de notre vie chrétienne. Fait que le mot discipline fait bien peur, mais c'est vraiment une source de développement pour qu'on puisse avoir une vie spirituelle qui est épanouie. Fait qu'on va voir au travers de tout ça là, c'est essentiel à notre vie, que ça nous mène, c'est le chemin pour la bonne nouvelle. Là, c'est un peu les termes qui sont utilisés dans le livre. Là, je voulais vous faire un petit résumé. Elle a fait allusion à l'entraînement spirituel. Hein. C'est souvent ça qu'on voit dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, Paul fait souvent mention hein, que c'est comme un entraînement, que c'est comme une course. Puis, il faut se préparer à ça, puis il faut toujours persévérer dans notre course. Il y a des athlètes qui ont décidé de choisir d'être épurés dans leurs vêtements parce qu'ils trouvaient ça encombrant de courir avec avec un chandail plus lousse. Fait qu'on s'épure de certaines façons, puis on essaie d'enlever de notre vie ce qui vient nuire à notre course. Puis c'est un petit peu ça le but du livre, c'est de découvrir, nous, c'est quoi qui encombre notre vie spirituelle, qu'est-ce qui nous ralentit. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable d'avoir un rythme de persévérance, un rythme rapide dans notre croissance puis dans notre vie spirituelle puis de travailler là-dessus? Fait que la discipline, c'est un engagement qui est sérieux avec des efforts soutenus, mais c'est surtout d'en être conscient. C'est comme si, à un moment donné, là, je ne veux pas voler le punch de la discipline de l'Évangile, mais c'est comme si après avoir accepté comme Jésus comme notre sauveur personnel, on a comme fait la grosse job. Puis pourtant, quand on accepte Jésus, c'est pas nous qui avons fait la job, c'est Dieu qui l'a fait pour nous. Fait qu'il y a comme nous un devoir là, qu'on va voir qui est notre responsabilité d'aller là-dedans. Donc, j'aimais beaucoup la différence entre la discipline puis le légalisme, justement, pour répondre un peu aux gens là, qui nous posent la question de comment on est, pourquoi on est là-dedans, qu'est-ce qu'on fait, puis pourquoi on fait toutes ces choses-là, pourquoi on va contre notre nature pécheresse. Bien, c'est la motivation d'avoir une relation avec Dieu au lieu d'être dans l'obligation. C'est un désir personnel. Ça fait partie de notre croissance. Fait qu'il y a deux choses importantes. Là, je ne suis pas du tout mes notes. Là, on verra à la fin s'il y a des choses importantes que je voulais vous dire. Mais il y a deux choses, là, deux questions importantes qu'on souligne et qu'on veut se questionner. C'est de se souvenir du moment où on a compris l'Évangile. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on lit le livre, on assume un petit peu qu'on a tous vécu ce moment-là où on a donné notre vie à Dieu. Mais en même temps, dans le premier chapitre, la discipline de l'Évangile, on retourne aux bases. Fait que je trouve que ça s'applique à toute personne. Parce que quand on a compris l'Évangile, le moment où on a accepté Jésus puis qu'on a compris, c'est comme supposé être un moment de grande réjouissance, de marquant dans notre vie. On est supposé dire que c'est un meilleur moment que la naissance de nos enfants, que notre mariage. Puis pour certains, ça n'a pas été vécu comme ça. Pour certains, ça a été un cheminement, à une recherche qui a amené un jour à dire « Oui, ça fait du sens, je le comprends, je l'accepte. » Il y en a d'autres, ça a été un moment fulgurant de joie où que d'un coup, ils ont eu une révélation puis ça a été une émotion très, très intense de joie. Mais il y en a d'autres qui ont été traînés jusqu'à être face à un mur puis sentir qu'il fallait tout abandonner puis qu'il n'y avait que Jésus qui pouvait vivre, qui pouvait avoir la solution à notre vie qu'on vivait aujourd'hui parce qu'il y avait, c'était trop difficile, il y avait trop d'épreuves. Fait que ce moment-là, chaque personne, on l'a vécu différemment. Chacun, on a un souvenir de ce moment-là qui devrait constamment revenir à nous. Parce que le moment où on a eu la conversion, c'est notre moment où on a compris c'était quoi l'Évangile. Puis si on ne retourne pas à ce moment-là, ou si on ne le comprend pas bien, ou si on ne l'a pas vécu, d'une façon à le comprendre complètement, bien, on n'est pas capable de continuer notre vie chrétienne, puis on n'est surtout pas capable de l'expliquer aux gens. Moi, quand j'ai fait JBEC, je pensais que j'étais capable d'évangéliser là, comme une grande. Hein? J'étais sauvée, je faisais l'école dimanche pour enfants. Mais quand tu confrontes des gens qui n'ont aucune connaissance à rien, tu te rends compte que tes mots, ils n'ont pas de sens pour eux, ça sonne dans le vide. Il y a comme un écho qui n'est pas là. Hein? Jésus, tu sais, la croix, là, c'est pas là. Mais pourtant, on est supposé comprendre le plan du salut, on est supposé être capable de l'expliquer comme il faut, on est supposé avoir à cœur que tout le monde vienne à la repentance. Hein? Hier, quand je me pratiquais, Luigi dit « Ouais, mais tu sais, c'est comme si tu dis que tout le monde va être sauvé. » Je dis « Non. » Tout le monde devrait avoir l'opportunité d'être évangélisé, d'être approché, d'être témoigné. Parce que si on se souvient comme il faut de notre moment de conversion, on se souvient qu'on ne pouvait rien faire, que c'était que Dieu qui avait accompli quelque chose, puis qu'on était vraiment dans un moment de besoin intense. On n'a pas juste prié pour se rassurer d'avoir une éternité complète, que tout soit beau. C'est pas un moment pour nous, c'est un moment pour Dieu. C'est de réaliser que Dieu avait tout accompli à la croix par son Fils, puis que maintenant, on veut vivre une vie en reconnaissance de tout ce que lui a fait. Pas une vie pour gagner, pour être meilleur chrétien, pour être un meilleur enfant, pour que Dieu nous aime plus, nous aime moins. Dieu nous aime tout court, peu importe comment on est. Puis de se souvenir de ce moment-là, ça nous aide à développer notre amour pour les non-chrétiens, à se souvenir de la passion qui nous habite. Puis on dit souvent que les chrétiens, c'est au début, ça va bien, puis après ça, hein, la vie prend, les épreuves embarquent, puis on a une petite perte. De retrouver ce zèle-là, si on retourne à notre premier amour, à notre premier moment, comme quand on tombe amoureux, puis qu'on est comme plus fébrile, on se peigne plus, on s'arrange mieux, on est dans un moment de séduction, bien cette séduction-là qu'on a avec notre sauveur à notre première rencontre, il faut retrouver ces papillons-là pour constamment pour être capable de vivre notre vie au quotidien. Puis aussi, ça dépend de nos buts. Si notre but, c'était juste d'avoir une assurance qu'on va pas en enfer, puis après ça, on est seté, on y va le dimanche matin, puis tout est beau, puis on n'a pas une aspiration puis une persévérance. Mais moi, je me dis que si on est là ce matin, puis qu'on veut aspirer à des choses, puis qu'on veut prendre des cours, puis qu'on veut grandir, c'est parce que justement, on désire être une femme de Dieu, que Dieu soit fier de nous, mais pas pour être la meilleure, puis pas par compétition. Parce qu'on sent ce besoin-là de plaire à notre sauveur parce qu'on l'aime et parce qu'il nous aime. Fait que l'Évangile, moi je trouve que ici à Longueuil, hein, on le dit, on veut être une église centrée sur l'Évangile, on veut être centré sur l'Évangile, on veut être centré sur... Là, on est comme, bon, l'Évangile c'est quoi? Hein? Au lancement, j'avais fait une petite question, qu'est-ce que l'Évangile? Hein? Les quatre Évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est-tu une portion de la Bible? C'est-tu la bonne nouvelle? La bonne réponse, c'était la bonne nouvelle. Mais l'Évangile, on a l'impression que souvent, vient juste dans le Nouveau Testament, puis c'est vraiment une portion de « Jésus mort à la croix, bravo, on veut le dire aux gens ». Mais l'Évangile, c'est pas juste ça. L'Évangile, c'est d'être capable d'expliquer aux gens l'entièreté de tout le plan de Dieu. C'est comme de dire que nos cocombes, nos tomates ont poussé, puis qu'il n'y a rien eu avant. On peut pas parler juste de nos tomates, nos cocombes, quand le but, c'était de parler de comment on a fait grandir notre jardin, le processus, comment ça s'est fait. Il n'y a pas juste le résultat, il y a le processus. Fait que l'Évangile, c'est ce que Dieu a fait pour nous, mais à partir du commencement, il nous a créés dans un monde où il n'y avait pas de péché. On a tombé, il y a eu tout le peuple, on va en reparler un petit peu avec la femme d'aujourd'hui, mais tout le peuple, comment il y a eu du péché, de la guerre, des divisions, puis comment Dieu, pour pouvoir réussir à réconcilier tout ça avec son amour pour nous, puis son monde de perfection, il a envoyé son Fils pour nous. Fait que l'Évangile, on a l'impression que c'est quelque chose qui est redondant, puis qu'on ne veut pas nécessairement toujours tomber là-dedans. On veut avoir du steak, pas juste du lait. On ne va pas juste rester dans le plan du salut, dans nos discussions, mais ça reste la base que si on comprend bien l'Évangile, on est capable après ça de faire plus loin. Puis souvent, on a l'impression que c'est quelque chose là qui est associé à une religion, qui est moins spirituel, qui est vraiment plus associé à quelque chose de devoir ou accomplir, puis on fait la prière, puis tout est beau. Mais on l'associe souvent à ce que nous, on a fait. Hein? Quand on parle de notre conversion à quelqu'un d'autre, le 31 août 94, j'ai dit oui à Jésus, j'ai fait ça, mais on oublie que c'est vraiment... Ben on n'oublie pas, c'est juste qu'on... Des fois, on le dilue dans notre témoignage ou que c'est Dieu qui accomplit tout, puis c'est pas notre décision qui fait que tout se passe comme on veut, c'est vraiment parce que Dieu, il a tout accompli. Puis, des fois, les gens, ils sont déçus. Hein? Il y a un ami à mon mari qui s'est converti, puis après, il ne comprenait pas que les épreuves étaient plus grandes qu'avant sa conversion. Il avait l'impression que la conversion avait peut-être nui à sa vie. T'sais? Et pourtant, c'est pas ça. Le chemin n'est pas sur notre vie terrestre. Notre chemin est sur notre vie céleste. Hein? Puis souvent, l'Évangile, on le vit au quotidien, dans nos fardeaux, dans nos maladies, dans nos difficultés. Puis il faut jamais renier ça. Là. C'est des moments très, très difficiles à vivre. Mais si on base notre espoir sur ce que Dieu va nous apporter sur cette vie-ci, on va être souvent déçus. On va être souvent désillusionnés. Moi, j'ai un bon ami à moi qui est en dépression présentement, que je rencontrais dans les dernières semaines, qui m'avait dit qu'il avait un plan suicidaire, puis qu'il avait mis une date. Puis quand je l'écoutais, là, lui, c'était un flamboyant, là, il était très évangéliste, il approchait toutes les gens. Puis d'entendre ce jugement-là qui était biaisé par la maladie, qui était vraiment dans une détresse où qu'il ne voyait plus l'amour de Dieu pour lui, puis qu'il voyait que ses échecs envers son travail, pas de copine, pas d'argent. Il trouvait ça très, très difficile. On parlait ensemble, puis on le rencontrait avec Luigi, puis on essayait de voir avec lui que tout ça, c'est éphémère. L'important, c'est notre persévérance dans notre course de vie chrétienne, d'être capable de toujours se souvenir, même dans les moments difficiles, que c'est l'amour de Dieu qui fait qu'on peut vaincre tout, réussir tout, puis que rien, hein, ni la mort, ni les hauteurs, ni les profondeurs, qu'il n'y a rien qui peut nous enlever ça. Fait que de retourner à la base, oui, ça a de l'air basique de retourner au plan du salut, mais de retourner à cet amour-là que Dieu a pour nous, ça nous aide après à vouloir tout accomplir par lui et pour lui. Fait que notre rôle à nous, c'est seulement de croire ça. Puis après ça, c'est de toujours se souvenir qu'il va être là pour nous puis qu'il va toujours nous soutenir. Hein? Fait que j'ai mis quelques versets à l'appui là, que vous pourrez lire là, dans les références. Mais notre rôle, c'est vraiment juste de croire puis Dieu, il va être fidèle à ses promesses. Fait que pour terminer les deux premiers chapitres, il y a trois points qui définissent l'Évangile, puis je voulais juste vous faire un résumé dans le fond de ce qu'on vient de se dire, puis après je vais prendre les questions là, si j'ai parlé trop vite. Le premier, c'est que l'Évangile nous définit. Hein? Quand on accepte Dieu dans notre vie, on est supposé être capable de dire « maintenant, je comprends pourquoi je suis sur Terre hein? ». Être capable de répondre à cette grande question-là, qui est la grande question universelle, hein, que personne ne sait pourquoi on est là, qu'on cherche toujours un but à notre vie. On est capable de répondre à cette question-là, puis de dire « Dieu nous a créés pour sa gloire ». C'est tout. Hein? On est là pour lui, puis par lui. Puis ce qui nous motive, c'est qu'on est capable de se définir, puis d'être capable de trouver nos dons, d'être capable d'être des serviteurs pour lui, puis de pouvoir apporter sa parole à d'autres, hein, de se multiplier. Puis on devrait être capable d'avoir une satisfaction dans notre vie spirituelle où on est capable de dire, peu importe ce qui arrive, dans quel état je suis, comment je suis reconnaissant de ce que Dieu fait pour moi. Mais là, ça ne veut pas dire qu'on a tous atteint cette profondeur-là ou qu'on est pleinement satisfait de la vie qu'on mène, de comment on est. Mais qui connaît pas Jean 3,16? Hein? C'est-tu le verset qu'on a tous appris qui nous est dit? Puis moi, enfant, j'avais trouvé des versets dans la Bible, dans une autre version, puis je l'avais mis dans ma chambre. Puis je trouvais ça donc formidable que j'avais appris des nouveaux versets, puis... Quand j'avais regardé les références dans l'autre, la Louis II, je m'étais rendu compte que c'était des versets que je connaissais déjà. T'sais. Puis là, j'avais dit à une amie, j'avais dit, ben je comprends pas comment ça. Pendant un mois, j'étais si émotive d'avoir trouvé un verset qui venait tant me toucher, tant me parler. Mais des fois, on a des versets qu'on trouve qui sont sont plus up to date, hein, sont un peu vieillots. Faudrait les upgrader, faudrait tomber dans quelque chose de plus contemporain. Mais quand on est capable de se souvenir de ce verset-là, on se rend compte que c'est le résumé de la Bible au complet qu'on est capable d'exprimer. Hein? Parce que Dieu, il a donné son Fils par amour pour nous, puis c'est la chose la plus grande qu'on est capable de faire parce que nos péchés, là, on méritait la mort. Hein? C'est nos péchés qui font qu'il y a eu des clous, qu'il y a eu des épines, qu'il a dû faire ça. C'est à cause de nos péchés. Puis Jean 3,16, il résume la fondation de tout ça. Puis si on n'est plus émerveillé par ça, bien, il faut se re-questionner sur on est où. Est-ce que Mme Prévost a dit des fois qu'on a mis des couvertes sur notre lumière allumée, hein, puis elle éclaire moins bien. Hein? C'est pas qu'elle n'est pas allumée, c'est que les épreuves de la vie, nos faiblesses, la vie avec les autres, la vie d'église qui n'est pas toujours facile, on a mis des couvertes sur notre lumière, puis elle est moins flamboyante, puis elle est plus loin, puis on a perdu un peu cette passion-là qu'on avait souvent au début. Puis de retrouver les réponses à ces questions-là, puis d'être capable d'enlever quelques couches, hein, on est capable d'être plus émerveillé. Parce que ce que Dieu a fait pour nous, ça devrait être constamment une reconnaissance pour nous de ce qu'on vit. Là, je vais prendre une petite pause, puis après, on va tomber dans l'autre femme. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? C'est bon, je vais continuer. Moi, quand j'ai pensé à l'Évangile, j'ai pensé à la femme samaritaine à cause que Jésus a été évangéliste, mais aussi parce que la samaritaine l'a été. La Samarie, hein, quand il y a le gros pays, la Samarie était en plein milieu, puis les Juifs, pour pouvoir y accéder, au lieu de passer au travers de la Samarie, ils faisaient le tour, ce qui n'était pas logique. Ça prenait plusieurs heures et jours de plus, puis c'était plus long. Et eux, ça faisait hein, par la marge et tout ça, il n'y avait pas de moyen de locomotion plus vite. Puis pourquoi ils le faisaient, c'est qu'il y avait eu une guerre. On voit ça dans Esdras et Néhémie, il y avait eu une guerre entre les Samaritains et les Juifs, parce que les Samaritains avaient décidé de plus louer Dieu puis d'être avec Dieu dans le temple. Ils faisaient ça sur un mont particulier. Fait qu'il y avait eu une rivalité religieuse, puis ça avait vraiment créé un conflit entre les deux. Fait qu'on, quand on voulait voir, on était avec un Samaritain, là, on était avec une personne de mauvaise vie. Là. C'était pas un bon choix de personne à approcher. Pour dire qu'on rajoute des jours à notre voyage, là, c'était vraiment presque excessif là, de dire qu'on veut pas les rencontrer. C'est des ennemis, ils ont pas compris c'est quoi adorer Dieu comme il faut, ils ne font pas dans le temple, ils le font sur le mont. Puis en plus, dans ce temps-là, on sait que les hommes n'abordaient pas nécessairement une femme seule dans un lieu public là, de façon convenable. Hein. C'était un peu inconvenable. Là. Les deux se faisaient juger là, s'il y avait une discussion en public là, sans qu'il y ait de mari ou de membre autre. Fait que quand Jésus est au début de son ministère avec ses disciples et qu'il décide de passer par la Samarie, il est déjà à contre-courant. Hein. On a déjà là, quelque chose qui fait que pour nous, ça semble être bien logique qu'on y va en kilomètre puis c'est le plus vite, mais pour eux, c'était pas logique qu'ils fassent ça. Fait que quand en plus, ils abordent une femme seule, il devient encore plus inconvenable, il défie les règles. Hein. On le sait, Jésus n'était pas quelqu'un qui suivait les règles de façon régulière, mais là, on était au début de son ministère. Il n'avait jamais dit qu'il était le Messie à haute voix. Fait qu'on est vraiment dans quelque chose de surprenant, tout le moins dans cette situation-là. À cette époque-là, hein, à Jérusalem, il y avait tout fait des canaux, des canalisations, des tuyaux. Il y avait 37 puits d'eau. C'était très bien monté. Mais dans les autres villes, il fallait aller au puits pour pouvoir aller chercher de l'eau. Donc, c'était souvent les jeunes femmes du ménage qui le faisaient. Ils allaient en fin de journée, c'était plus frais. Ils apportaient leur cruche là, qui était comme en pot de chèvre. Ils s'en allaient là, en petit groupe. Ils remplissaient, puis ils pouvaient avoir l'eau pour le lendemain et toute leur journée. Donc, c'était plus frais parce que le matin, il y avait beaucoup trop de choses à faire. Donc, ils y allaient le soir. Fait que la Samaritaine était là en plein midi. Hein, à midi, c'est l'heure le plus chaud de la journée. Elle était seule. Elle n'avait pas un mode de vie qui était accepté. Pour ceux qui ont lu dans Jean 4, on voit là, que c'est une femme qui avait eu plusieurs maris, qui habitait en concubinage. C'était pas une femme là, qui pouvait se vanter là, d'être populaire auprès des gens. Elle avait un mode de vie là, qui était marginal. Fait qu'on se retrouve à midi avec une femme qui puise de l'eau, avec un homme juif qui a passé par la Samarie. Fait que beaucoup d'inconvenances. Hein? On s'entend, Jésus, il passait pas par les règles principales pour pouvoir se faire voir. Fait que quand il aborde la Samaritaine, elle est toute surprise. Il parle de l'eau, il parle d'étancher sa soif, c'est pas clair. On comprend pas trop ce qui se passe. Hein? L'accès à la Bible, dans ce temps-là, c'était les manuscrits. Si elle était samaritaine, est-ce que les manuscrits étaient lus? On ne sait pas sa compréhension de tout le passé. C'est sûr qu'elle connaissait là, le Dieu, elle savait beaucoup de choses, mais c'était pas clair. Hein? Jésus parle souvent en parabole. Même nous, aujourd'hui, des fois, il faut mettre une autre paire de yeux pour tout comprendre ce qu'il veut dire là quand on parle de ça. Puis même dans la Bible avant, dans les psaumes, les proverbes, l'eau, des fois, c'était les tréfonds des eaux. Tu sais, c'était comme une détresse. Puis des fois, l'eau, ça lavait, ça purifiait. Des fois, ça nous désaltérait, puis c'était une source de vie. Fait que même dans l'Ancien Testament, l'eau avait été symbole de différentes choses. Fait que pour la femme samaritaine, c'était pas clair au début ce qui s'est passé. Puis pour que Jésus ait un impact direct, il a fallu qu'il lui dise des choses qu'il connaissait d'elle. Il lui a parlé de ses maris, de son concubinage. Il lui a parlé de choses que c'était dit dans les Samaritains, mais c'était pas nécessairement tous connus. Puis elle s'est sentie très interpellée qu'il la connaisse personnellement. Puis après, quand elle lui a parlé de l'eau qui venait étancher cette soif-là, parce qu'elle avait un vide hein, d'avoir autant de maris, de vivre dans une vie de débauche, à rechercher quelque chose, de répondre à un besoin si précis que la femme vivait, elle a vécu ça vraiment comme une expérience personnelle. Puis après ça, elle a été l'annoncer au reste de la Samarie. Puis Jésus a eu un impact d'évangélisation, précisément vers une seule femme samaritaine. Peut-être pas productif, hein? Nous, on trouve que les foules de 500, hein, les miracles cassés du pain, c'est beaucoup plus productif. On est en grand groupe, le message se propage. Mais Jésus, là, il y a un intérêt personnel pour chacun d'entre nous. Puis la première personne qui a décidé d'évangéliser, c'est une femme qui était marginale dans un contexte de vie non accepté, dans un contexte de Samarie divisée ou qui pouvait se faire juger. Puis c'est là la première fois dans son ministère qu'il se proclame comme Messie puis qu'il apporte son message de bonne nouvelle. Jésus, là, il voulait dire que la religion, c'est pas une question de forme, hein? C'est pas une question de on est où, on est comment, on est habillé qui, est-ce qu'on a assez de bagages pour pouvoir rentrer dans l'Église? Jésus dit que la religion, c'est une question de fond, c'est une question de croire, hein? Parce que la femme, elle avait rien pour elle, puis elle a seulement cru, puis ça a été son seul travail à faire. Fait que Jésus, il est en train d'éliminer tout ça, cette haine religieuse-là, qui était très présente à ce moment-là. Le genre de personne qui approchait, pas un homme, une femme, dans une situation où que les femmes étaient subalternes dans la société. Fait qu'il a vraiment été capable de bien cibler. Aujourd'hui, en analysant tout ça, on dit « Voyons, il me semble que c'est pas fort là comme première shot là, hein, sur l'évangélisation. » Mais plus tard, dans les actes, on voit que quand Philippe est allé évangéliser, une partie de la Samarie avait déjà entendu le témoignage de Jésus à cause que la Samaritaine allait voir les gens un à un, puis elle disait « Il m'a parlé à moi, il me connaissait moi, il était capable de dire ma vie, puis maintenant je suis changée, j'ai changé de vie. » Fait qu'elle a eu un témoignage d'évangélisation qui a dépassé le cadre de ce qu'on pouvait faire, parce que c'était un peuple qui était séparé des Juifs. Fait que même si Jésus a eu un ministère plus auprès des Juifs, il y a eu un impact très grand au début de ce ministère-là, puis ça a eu des répercussions dans le reste du temps, même quand il est mort puis ressuscité. Fait que la femme, elle a été un témoignage précieux. Puis nous, on a l'impression des fois que dans notre maladie, dans notre énergie, dans toutes les épreuves qu'on vit, on est peu de choses. Mais Jésus utilise tout le monde et tous pour son message parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse personnellement à nous. Fait que je trouvais que dans la Samaritaine, on voyait les deux choses. On voyait comment Jésus était, il nous donnait un témoignage, mais on voyait que la femme, après ça, même si elle était jugée, puis ça, elle était tellement interpellée, puis elle se sentait tellement reconnaissante de cette relation-là qu'elle avait eue, qu'elle pouvait faire autrement que de partager ce qu'elle avait vécu. On en a parlé, l'eau. Bon, fait que là, c'est ça, je disais, dans Actes aussi, on voit là, la répercussion, puis après, Philippe, quand il va prêcher, il y avait déjà un important mouvement là, qui était la conséquence de tout ça. Fait que moi, ce que je retire de tout ça, c'est que nous, je vous l'ai dit un petit peu, comment nous, on peut se sentir interpellés dans notre faiblesse, dans notre péché. Des fois, il y a des gens qui me disent, je peux pas vraiment faire ça parce que moi-même, je lutte encore pour ça, hein? Mais on n'est pas la meilleure personne pour pouvoir le faire quand justement on sait c'est quoi avoir ces attaques de panique-là, d'avoir peu d'énergie pour notre quotidien, d'avoir une mère qui est souffrante puis que c'est difficile d'avoir des enfants ou que des jeunes enfants ou que t'as pas le temps puis que le quotidien est lourd, hein? Fait que des fois, c'est vraiment par un témoignage personnel qu'on est capable d'interpeller les autres. Et surtout, quand on se dit que c'est pas nous qui faisons le travail, que tout est accompli par Dieu. Nous, notre rôle, c'est seulement d'être un témoin. Nous, on a l'impression hein, que mon ami qui va pas bien là, présentement, il me disait, j'ai fait tant de travail dans les jeunesses, puis les gens, ils ont pas cru, puis maintenant, ils sont plus dans la foi. Il dit, tant de temps perdu. Puis on se disait, c'est pas du temps perdu, parce que c'est pas nous qui est probable du résultat de tout ça. Hein. Nous, notre rôle, c'est d'être des témoins. Hein? Puis des fois, ça prend 7, 8, 9 contacts pour pouvoir vraiment développer un intérêt pour Dieu puis avoir bâti des fois ces connaissances-là puis être capable de tout mettre ça ensemble puis d'accepter. Fait que nous, on n'est que des vaisseaux, on n'est que des serviteurs puis des témoins dans tout ça. Fait qu'il ne faut pas sous-estimer comment Dieu peut nous utiliser. Peu importe qui nous sommes. Là, j'ai un modèle un peu contrastant parce que la femme samaritaine était nobody, hein, si on peut dire quelqu'un là, qui était vraiment pas approprié. Ma sœur, j'ai demandé à ma sœur aînée de m'écrire des noms de femmes contemporaines. Elle suit beaucoup les blogs, les activités. Moi, je suis un peu moins là-dedans, fait que ça m'a fait découvrir de nouvelles femmes. Anne Graham, là, c'est la femme de Billy Graham. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Billy Graham? Billy Graham, c'est un des plus grands évangélistes là, américains des derniers temps. Il l'est encore, justement. Il conseillait les présidents, il a parlé. Il a eu beaucoup d'influence. Il faisait des croisades là, dans des stades avec des dizaines de milliers de personnes. Un grand, grand évangéliste. Anne Graham, là, c'est sa fille. Dans le fond, elle, dans ses mémoires, dans ses auteurs, elle parle souvent qu'elle a vécu comme étant avec une mère monoparentale, hein, pas de papa présent, entourée de ses frères et sœurs. Dans une culture, là, elle a accepté le Seigneur à 8 ans, elle a grandi dans une église, elle avait une petite vie de fille sage, là, qui est très bien. Là, elle avait une petite vie tranquille, elle a marié un dentiste, elle a eu 3 enfants, elle était à la maison, puis elle a essayé d'élever ses enfants puis d'être maman à la maison. Puis elle trouvait là, qu'elle manquait de moments où elle pouvait approfondir ses connaissances dans la Bible. Fait qu'elle a décidé de suivre des cours un peu, là, d'essayer de rapporter ça. Puis à un moment donné, elle essayait même que certains, parce qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile. Hein. Il n'y a pas juste Sembeck, là, il y a des dizaines d'universités. Puis tout ça, fait qu'elle essayait de faire venir là, certains cours dans sa ville, puis ça ne fonctionnait pas. C'était toujours trop loin, puis avec son contexte de jeune enfant, ça ne fonctionnait pas. Fait qu'à un moment donné, elle a dit « je vais prendre leur matériel, puis je vais donner un cours ». Première rencontre, on se souvient qu'on est aux États-Unis, 500 applications et une liste d'attente. Fait qu'elle a poursuivi son enseignement sans avoir une vraie formation au début, là, pendant 12 ans pour concilier sa vie de travail, sa vie de famille, parce qu'elle avait un désir profond d'approfondir ses connaissances puis de promouvoir ça à d'autres femmes et d'autres gens. Par la suite, après, elle a développé un ministère qui s'appelle Angel. Là, c'est basé sur ses lettres. Je trouvais ça cute. Là. Pour pouvoir vraiment développer ça, plus de cours, plus de formations pour qu'on soit mieux équipé dans notre connaissance, sans avoir un bac, sans avoir d'autres choses, mais développer notre connaissance de la parole. Elle a écrit 11 livres. Elle a été interviewée par les New York Times. Une femme là, qui a été très, très visible au niveau américain, qui a eu une vie qui est similaire à son père au niveau là, publicité là, et tout ça. Le dernier livre qu'elle a écrit, elle l'a écrit à cause qu'en 90, le cabinet de son mari a passé au feu. Son fils a eu le cancer. Sa mère a été hospitalisée pour une grave maladie. Ses 3 enfants ont quitté en 8 mois de délai la maison, puis elle s'est retrouvée seule. Fait qu'elle a vraiment vécu plein d'épreuves sur une courte période de temps, là, dans la même année, très rapprochée. Puis le livre s'appelle « Just Give Me Jesus ». Là, la traduction très, très libre, c'est « Donne-moi seulement Jésus ». En fait, elle avait une vie comblée, épanouie, un bon ministère, plein de choses autour d'elle, mais elle a eu un besoin très immense, là, où elle a vécu plein d'épreuves successives, puis en plus, le départ de ses enfants, que ça la satisfaisait plus, elle ressentait comme un grand vide, puis elle est revenue à la source de son témoignage, puis elle a dit, dans le fond, on a tout en Jésus. Puis c'est un petit peu ça. Après ça, là, le livre a été publié et très, très utilisé. Là. C'est un peu là, la fin là, de présentement qu'est-ce qui se passe. Son mari est décédé il y a 2 ans, mais elle est toujours là, très impliquée là-dedans. Puis ils lui ont remis des doctorats. Puis je trouvais que c'était un modèle bon très américain, là, vous pouvez le dire. Là. Peut-être qu'on s'interpelle moins là, au niveau québécois là-dessus. Hein. On n'aura pas 500 personnes à notre cours si on décide d'en donner un jour. Puis peut-être aussi le fait que son père était Billy Graham lui donnait une notoriété qu'on n'aurait pas. Hein? Mais moi, ce que je me souviens de son témoignage, c'est qu'elle était maman à la maison de 3 enfants. Elle a eu un désir, puis elle a décidé d'elle-même d'essayer de trouver quelque chose pour assouvir ça, puis pouvoir le transmettre à d'autres. Puis Dieu a béni les moyens qu'elle a utilisés, Dieu a permis là, que autant de gens s'inscrivent puis qu'elle ait quelque chose de développé. Puis c'est pas nécessairement ça là, que moi je m'attends aujourd'hui là, de moi-même et de nous. Mais je trouve que de façon contemporaine, ça part toujours de ce que nous, on est prêt à faire avec notre foi qu'on veut au quotidien. Fait que ça, c'est très flamboyant. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose qui fait que demain matin, on a le goût de faire, mais c'est de se questionner aujourd'hui, en vue des prochains cours qu'on va faire, on en est où aujourd'hui avec notre foi? Est-ce que nous, notre foi, on la vit le dimanche, puis c'est comme ça? Hein, c'est très cliché de dire ça, hein, on est chrétien du dimanche, pas chrétien la semaine. Des fois, on est dans l'entre-deux. Hein, on lit notre Bible 4-5 fois, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais l'important, comme Dieu dit, c'est pas une question de forme, c'est une question de fond. Fait que je pense qu'il faut chacun répondre à notre propre question. On en est où maintenant? Pas en fonction des services qu'on rend, de où on est dans l'Église, de notre fréquence, mais nous, par rapport à notre salut, là, premièrement, est-ce qu'on est sauvé? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Si rapidement la question est oui, c'est on en est où dans notre passion pour Jésus? Puis on en est où dans comment on veut se questionner par rapport à ça? Puis au-delà de nous, on en est où par rapport à Dieu puis par rapport aux autres? Parce que souvent, qui nous arrête, c'est notre nous-mêmes. Hein? C'est notre nous-mêmes, notre énergie, notre façon d'être, nos épreuves, notre quotidien. Mais moi, j'essaie toujours de me souvenir qu'on n'a pas juste une vie terrestre, on a une vie céleste. Fait qu'il ne faut pas accumuler des biens juste sur notre vie terrestre. Il ne faut pas accumuler juste des pouvoirs, des activités, des amis, tout ça. Ici, il faut se préparer à notre vie céleste. Puis moi, de tout mon cœur, je désire faire la fierté de mon papa céleste, puis d'être capable d'arriver au ciel, puis d'avoir eu, non pas le nombre de services, de cours, mais d'avoir eu une attitude de cœur pendant toute ma vie spirituelle où j'étais constamment à la recherche de sa volonté, puis que constamment j'essayais de me remettre en question, puis d'évoluer, puis de grandir. Fait que c'est ça qu'on va essayer de faire avec le cours. Vous allez voir qu'on passe au travers la foi, l'adoration, le contentement, les bonnes œuvres. On va voir différentes choses, comment on peut essayer d'approfondir ça. Puis on va voir comment les femmes aujourd'hui y arrivent. Bon, peut-être plus modestement, là, évidemment, mais peut-être pas comme la Samaritaine non plus, de se rendre jusqu'au fond de nos épreuves pour se rendre. Avec qui on est aujourd'hui, dans le Québec qu'on a aussi aujourd'hui, hein, l'évangélisation, c'est très difficile. Moi, je trouve que c'est même plus... Non, je peux pas dire ça, j'étais pas là avant. Mais moi, je trouve ça difficile d'évangéliser des gens si ouverts à tous. Hein. Ma meilleure amie a dit, c'est bon pour toi. Elle dit, si mon fils veut ça un jour, je vais l'accepter. Tu sais, dans l'ouverture totale, je trouve qu'aujourd'hui, l'évangélisation, ils nous écoutent, mais c'est pas pour eux. Hein. Fait qu'on est un peu pareil aujourd'hui. Hein. Il y a des choses qui nous interpellent dans l'Église, où Yannick fait des prédications, mais c'est pas pour nous. Fait que nous aussi, faisons attention à notre ouverture, travaillons sur notre propre cœur et voyons où cela nous mène.